Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut à tous, bienvenue dans Terre débattue, votre rendez-vous incontournable durant toute cette quinzaine à Roland-Garros. On a déjà fini le deuxième tour, une nouvelle journée sombre pour les Français. Aucun Français qualifié pour le troisième tour, c'est historique. Malheureusement, nous y reviendrons évidemment longuement. Ça passe en revanche pour Federer, c'est fini pour la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, qui a dû abandonner. Nos trois experts sont là pour débriefer tout ça, Camille Pin, Cyril Morin et Bertrand Milliard. Salut à tous les trois, comment ça va ?
Salut Olivier.
Salut Olivier, salut à tous.
Gardez un petit peu d'énergie hein, parce qu'il va y avoir de gros bon, débats aujourd'hui. Vainqueur de Cilic, Roger Federer est toujours là. Mais quel Federer voit-on ? Jusqu'où peut-il aller ? C'est notre débat du jour. La question qui fâche, le bilan après deux tours côté français est dramatique, historique même. Aucun Français au troisième tour. Pourquoi un tel fiasco ? Sans oublier la stat de jeu 7 et maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et l'affiche du jour de ce vendredi, on parlera de Stefanos Tsitsipas, opposé au vieillissant mais toujours menaçant John Isner. Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour, Bertrand, Cyril, Camille. Roger Federer, évidemment, c'est incontournable. On est obligé de parler du Suisse qui s'est imposé face à Marin Cilic en 4-7. Moi, j'ai trouvé un bon Roger Federer qualifié pour le troisième tour. Mais vous, les spécialistes, les experts, comment jugez-vous la partition du Suisse ? Tiens, Bertrand.
Alors, je pense qu'il y a eu deux matchs un petit peu dans cette partie. Enfin, il y a même eu trois, si on veut. Le début de match, Marin Cilic, c'est le Marin Cilic de 2021, c'est-à-dire absolument catastrophique. Bon, premier set, sans histoire pour Federer, parce que Cilic fait faute directe, et sert mal, il n'y a pas de jeu, pas de match. Dans le deuxième set, Federer a une balle de break d'entrée qu'il ne convertit pas. Il s'agace, il y a l'incident d'arbitrage avec Emmanuel Joseph, où il prend un time violation au retour. C'est exceptionnel face au joueur probablement le plus lent à servir, qui est Marin Cilic, qui
Est-ce
fait rebondir
que c'était justifié
555 fois sa balle. Mais c'est absolument injustifié. Ça fait deux fois que Cilic mettait un peu la pression à M. Joseph pour lui dire il prend du temps. Ce qui est génial, c'est que Cilic, il dit il prend du temps. Et au moment où Federer est prêt, lui, il prend sa balle, il fait la faire rebondir 15 fois. Donc c'est quand même, si je peux me permettre, l'hôpital qui se fout de la charité en ce qui concerne Marin Cilic, qui a quand même obtenu gain de cause. Mais alors derrière, je pense que c'est l'incident d'arbitrage de Federer le plus chaud, avec celui de la finale de l'US Open 2009 avec M. Garner face à Del Potro, où il lui avait dit « arrête de me dire de ne pas parler, je parle si j'ai envie de parler, etc. »
Aujourd'hui, ça vous a surpris quand même de le voir comme ça ? C'est rare de le voir comme ça.
Ça m'a pas surpris parce que
palabré pendant des minutes et des minutes.
Non, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de jeu. En l'occurrence, ça, c'est vraiment parce que je pense que c'était très mal vu de la part de l'arbitre et donc il s'énerve à juste titre. Donc, ce set-là, et là, cette fois-ci, c'est Federer qui joue très mal et ça revient à un set partout. Dans le troisième, il a un break d'avance, il doit faire le double break, il rate un coup droit pénalty pour faire 4-1 double break et il se fait débreaker dans la foulée, c'est souvent le cas. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est débreaké dans le troisième, je trouve qu'on a un Federer complètement nouveau, qui joue très bien, qui sert très bien. Je trouve que ça, la balle sort beaucoup mieux de sa raquette, c'est beaucoup plus fluide, son coup droit fonctionne bien, son revers aussi, il a quelques revers longue ligne gagnant assez magnifique. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'il est en contrôle, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur de rien. Au point de donner un ace à Cilic sur le premier point du tie-break du troisième, alors que l'arbitre avait donné faute. Petite humiliation pour l'arbitre au passage. Et lui, bon, il sait qu'à ce moment-là, qu'il sert très bien. Il fait un très bon tie-break. Il fait derrière un très bon quatrième set. Donc voilà, Federer, j'ai trouvé que ce match n'était vraiment pas de bonne qualité pendant 2 sets et demi. Et qu'à partir du milieu de troisième, c'est monté en puissance. Et que Federer, particulièrement, est monté en puissance et a fait, oui, vraiment une bonne fin de match.
Je suis assez d'accord avec Bertrand sur le visage de Federer. Il faut aussi rappeler que Cilic, c'est un adversaire qui lui correspondait bien dans ce que recherche Federer. C'était pas encore des longs rallyes sur terre. Voilà, c'est un match en 4-7 qui a fait un tout petit peu plus de 2h30. Donc, les échanges n'ont pas été très, très longs. Et mine de rien, ça facilite Federer parce que, évidemment, à partir du moment où on va rentrer dans des matchs plus compliqués, notamment peut-être son troisième tour, on y reviendra, où les échanges vont s'éterniser, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais dans la situation, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était plutôt fluide. On a vu des beaux revers, je suis assez d'accord avec toi, Bertrand, et une qualité en première balle qui le sort quand même de beaucoup de situations.
Oui.
Et ça, c'est très, très précieux. Et souvent, quand la première balle de Federer est au rendez-vous, c'est que derrière, ça s'annonce plutôt pas mal pour la suite.
Après, on est rassuré, surtout Olivier, parce que les matchs qu'il a produits avant Roland-Garros, on ne savait pas trop où il en était quand même, Roger. On se dit, bon, bah, est-ce que le fait d'arriver en grand chelem, finalement, ça va être un plus pour lui, parce qu'il va peut-être avoir ce petit plus de pression qui fait qu'il va bien jouer. Mais on était quand même assez sceptiques, même si dans nos pronostics, on avait quand même dit Sidic, il n'est pas non plus très en forme. Mais je trouve que ce match confirme qu'on peut encore espérer quelque chose de Roger. Jusqu'à où on ne va peut-être pas s'enflammer non plus, mais il a confirmé un niveau moyen qui est relativement élevé.
Ouais, j'étais sceptique avant le premier tour, en fait, avant Istomin. Avant ce match-là, pas du tout. Parce que ça aurait pu me faire mentir, hein, parce que quand il est débriqué au troisième, il peut éventuellement perdre le troisième. Mais Cilic n'est plus que l'ombre du joueur qui était finaliste de Grand Chelem encore il y a 3 ans et quelques.
47e. Hein.
47e, et surtout, il joue mal en ce moment, il faut le dire. Il y a des moments où on retrouve le grand Cilic de temps en temps avec son coup droit, etc.
Trop inconstant,
il fait énormément de fautes directes, et on le sent surtout pas du tout en confiance. C'est qu'il fait quand même, il y a des moments clés dans le match, bah, ils sont pas très bien gérés. Et juste une chose, c'est que je suis resté pour écouter l'interview de Roger Federer, et il se connaît très bien, et il a toujours une analyse à la fin des matchs qui est bonne. Il sait qu'il est encore extrêmement perfectible en défense. On l'a vu dans le deuxième set, quand Cilic justement a joué un peu mieux et a pu plus faire parler son coup droit. Et voilà, à Federer, lorsqu'il doit faire droite-gauche pour l'instant sur terre battue, qu'il est dominé à l'échange, ça devient beaucoup plus dur.
C'est
et il
physiquement
le sait.
Ou il ne joue pas juste dans ces cas-là?
Il n'a pas dit que c'était physiquement, mais il n'est pas encore prêt. Il n'a pas joué assez de matchs encore, je pense, pour se sentir bien sur le plan défensif. Je ne pense pas que ce soit physique. On aurait pu le croire au deuxième set.
Il n'a pas la bonne réponse aux
attaques. Pas encore. Je pense qu'il manque un peu de rythme et encore un peu de compétition pour être suffisamment costaud en défense.
Ce qui est intéressant, c'est que dans sa conférence de presse, il a parlé aussi des conditions de jeu actuellement à Roland-Garros et de la terre battue. Il disait on a l'image d'une terre battue qui est forcément lente. En fait, avec les conditions de jeu où il fait très chaud, et c'est ce que disait aussi un petit peu Medvedev il y a quelques jours, ça va assez vite. Et on est sur des schémas de jeu qui lui correspondent un petit peu mieux et qui lui permettent de s'économiser un maximum. Donc, on n'est pas encore sur des grands combats terriens qui vont peut-être arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, il a su se préserver. Parce que les conditions lui correspondaient bien.
C'était pas un match de terre battue aujourd'hui, hein. Pas du
ouais,
tout.
C'est ça.
C'est joué quasiment tout le temps, 2-3 coups de raquette. Il y a eu très très peu de rallye.
Le niveau risque de s'élever au prochain tour. Camille l'a rapidement évoqué. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'on peut vraiment se poser la question avec le Suisse? Ce prochain adversaire, ce sera Dominic Kupfer, un solide Allemand qui n'a pas un grand talent, mais qui est quand même un client sur cette surface, 59e joueur mondial. Après, ça peut grimper très, très vite. Hein. Potentiellement, ça peut être Berrettini, puis évidemment, éventuellement le quart de finale contre Djoko.
Oui, mais j'ai envie de dire que voilà, il ne faudrait pas perdre le match contre Kupfer, parce que perdre contre cet Allemand, ça ferait un peu tâche quand même, je pense, au troisième tour pour un Federer. S'il passe ce tour, il est en deuxième semaine, c'est au-delà de ses espérances, c'est pratiquement au-delà des espérances de tout le monde. C'est pour jouer un top 10, probablement. Hein, Berrettini, je pense, sera en huitième, où il n'aura aucune pression. Il pourra faire un bon match qui là sera vraiment un match de terre battue, où là il pourra vraiment justement voir si en défense ça va un peu mieux, parce qu'il va prendre des parpaings contre Berrettini. Et j'ai presque tendance à dire qu'il vaudrait peut-être mieux que ça s'arrête là en faisant un bon match, c'est-à-dire par exemple une défaite en 4-7 voire 5, parce que s'il retrouve par contre Djokovic derrière en quart, là ça risque de faire très très mal. Donc moi je le verrais, je vois bien
faire contre un autre joueur que Djokovic.
C'est pas ça, c'est que contre Djokovic, à mon avis, il peut prendre une sévère quand même. Donc, je pense qu'une défaite honorable, un peu serrée contre Berrettini en 8e, ce serait déjà un très bon Roland-Garros, et ça éviterait peut-être une très grosse défaite face à un de ses rivaux, évidemment, de ses deux plus grands rivaux, qui pourrait lui faire mal en revanche, là, par rapport à la suite, même s'il sait qu'il n'a pas ce niveau-là aujourd'hui.
C'est Federer, donc on en attend forcément beaucoup, mais c'est vrai, il faut vraiment insister là-dessus, et il l'a fait aussi en conférence de presse. Il est encore en phase de reprise, il manque encore beaucoup de repères, et il fait encore des tests. Il a par exemple expliqué qu'il aurait bien aimé faire un petit peu plus de service volé aujourd'hui, mais qu'il n'a pas eu l'occasion. Donc il est encore dans une phase de redécouverte, entre guillemets, de son tennis et de ce qu'il peut faire avec la raquette. Donc moi, je suis assez d'accord avec Bertrand, c'est un bilan pour l'instant positif, voire très positif, et arriver en deuxième semaine, ce serait déjà magnifique pour le Federer dans l'état dans lequel il est actuellement.
Et si on se projette plus loin sur la saison de gazon, est-ce que ce Federer-là, que l'on entreaperçoit pour l'instant, évidemment pas à 100%, mais qui progresse, est-ce que ça en fait un candidat crédible pour le gazon et pour Wimbledon en revanche?
Oui, enfin en tout cas déjà il a trouvé ici à Roland Garros ce qu'il était venu chercher, c'est-à-dire des matchs, du jeu, de la compétition, du rythme dans un grand chelem, donc c'est pas rien quand même, c'est des matchs importants. 1245e victoire de sa carrière aujourd'hui, il revient à 33 longueurs de Connor, c'est toujours ce petit record dans ma tête donc auquel je pense, donc voilà, il a dû encore un peu l'écart. Ça va lui faire du bien quoi qu'il arrive, d'avoir des matchs, d'avoir du rythme, d'avoir de la compétition. Et effectivement, arriver à Halle en ayant eu 3, 4, voire au mieux peut-être 5 matchs à Roland-Garros, ce sera certainement un plus. Et ça lui permettra certainement d'aborder le gazon avec beaucoup plus de confiance.
Moi, je ne sais pas quel est son objectif réel sur cette reprise. Est-ce que c'est les jeux? Est-ce que c'est d'essayer de regagner Wimbledon, se faire un plaisir énorme en allant donner les moyens, mais réels, pas juste revenir pour essayer de grappiller des matchs? On ne sait pas vraiment.
Mais je ne sais pas s'il le sait lui-même, en fait. C'est ça, la question. Il ne peut pas le savoir avant d'avoir joué, justement, un certain nombre de matchs, je crois. Il va le découvrir au fur et à mesure. Là, son niveau est déjà bien meilleur qu'à Genève, évidemment, meilleur qu'à Dubaï, Doha. Il progresse. Donc, plus il va jouer de matchs, plus, à mon avis, il va se sentir mieux. Encore une fois, retrouver l'adrénaline et le rythme de la compétition, et donc plus pour avoir d'ambition aussi sur gazon. Halle sera aussi un test important s'il arrive à aller loin, s'il gagne encore ce tournoi. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec l'arrêt très long qu'il a fait, les opérations et l'âge qu'il a, il puisse se dire « je joue la gagne à Wimbledon ». Dans sa tête, forcément quelque part, parce que l'orgueil du champion, parce que c'est Roger Federer, mais je ne sais pas si objectivement, c'est réellement cet objectif-là. Je pense que son objectif, je pense qu'il prend un peu jour après jour. Son objectif, c'est de mieux jouer de mieux en mieux, de progresser, d'être meilleur en défense, meilleur en attaque, meilleur au service, match après match, et que ça puisse l'emmener le plus loin possible.
Ce qui est intéressant, c'est que dans les schémas de jeu qu'on a vus aujourd'hui, en tout cas, on a retrouvé des fondamentaux qu'il n'a pas perdus. Et ça, c'est déjà rassurant. Oui. Et c'est des fondamentaux qui, sur gazon, sont ultra, ultra efficaces. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être appris qu'il y aurait un niveau minimum pour Federer à Wimbledon. Ce qui peut viser la victoire, moi je suis d'accord avec Bertrand, ça me semble quand même un petit peu osé, mais ce sera un acteur de Wimbledon plus que ce qu'il ne devait être ici à Roland-Garros.
Allez Bertrand, Cyril, Camille, avant de terminer ce débat, si vous deviez lui donner une note aujourd'hui à Roger sur ce que vous avez vu, sur ce que vous voyez depuis le début de ce Roland-Garros.
Moi, je lui mets un 15 sur 20, je pense.
Ah, c'est sur 20, sur 10, je sais pas.
Sur 20.
Sur 20.
15, c'est une bonne note, hein, Cyril.
C'est une bonne note.
Il y a eu vraiment des hauts et des bas, donc, mais dans l'ensemble, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, je dirais un 13 ou un 13-14. Ouais.
Sur un 14, parce qu'il a une grosse marge de progression, bien sûr, même sur ce tournoi, match après match. Mais surtout, il a assuré ce qu'il devait assurer. Ouais. Ça veut dire que, bah, en termes de confiance, il n'est pas non plus à zéro, parce qu'on était, légèrement inquiet par rapport aux défaites qu'il avait pu avoir en amont. Donc un bon 14 pour Roger.
Puis ce qui est quand même fort, c'est qu'il a quand même en face de lui un vainqueur de Grand Chelem, qu'il a rebattu deux fois en finale de Grand Chelem derrière en 2017 et 2018, qui lui a un peu coulé justement depuis 2018, mais qui est tout le temps sur le circuit. Et ainsi, il est tout le temps sur le circuit, mais on manque de confiance, bah c'est moins fort qu'un Federer qui joue quasiment plus. Donc rien que ça, déjà, c'est quand même, ça montre la différence de niveau entre ces deux joueurs et le côté un peu incroyable aussi de Federer.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Roger Federer qui affrontera donc au troisième tour Dominic Kupfer, le 59e joueur mondial. On va passer, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait saigner, mais on va passer à la question qui fâche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et Et la question qui fâche, bah, elle fâche vraiment. Celle-là, elle est vraiment difficile, avec une nouvelle journée douloureuse pour les Français. Aucune victoire à la clé. Il n'y aura donc aucun représentant français au troisième tour. C'est historique. Et la question est simple. Pourquoi un tel fiasco ?
Ouais, déjà, Olivier, je dirais que ce n'est pas une surprise non plus. Tout simplement, avant de commencer ce tournoi, c'était envisageable. On espérait que non, mais tout simplement par rapport au classement. À la race, c'est Jérémy Chardy qui est numéro 1, numéro 2, Arthur Hinderknecht, qui a fait un quart de finale qui est à Marseille. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ça. Après, pourquoi, effectivement, il y a plus ce contingent français chez les filles et les garçons, alors que c'est vrai que ça fait, je ne sais pas,
ils étaient 29 au départ.
Voilà, oui, mais il y a un vivier dans le top 100, normalement bien plus important que ce qu'il y a actuellement. Donc ça, c'est un problème de fond et on aura besoin de beaucoup de temps peut-être pour analyser. Il y a des problèmes de génération, ça c'est une certitude. On l'a vu même avec la génération chez les Américains, après Agassi-Sampras, il y a eu, et pourquoi, alors que l'école américaine est toujours aussi bonne. L'école française est excellente, on a eu quand même trois numéro un mondial junior chez les filles à la suite. Donc, en termes de formation, il se passe quelque chose quand même. Donc, pourquoi à un moment, ça ne se traduit pas sur justement une constance dans le top 100 ? Parce qu'il faut un niveau moyen. Moi, je trouve juste que nos joueurs garçons et filles, tennistiquement, ils ont tout ce qu'il faut pour aller se maintenir à ce niveau-là. En revanche, c'est la constance. Leur niveau moyen n'est pas assez haut pour aujourd'hui combattre avec tous les acteurs qu'il y a sur le circuit, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. C'est ultra dense. On sent que tout le monde s'implique plus, tout le monde met des moyens. Donc, en fait, le niveau est tellement élevé qu'aujourd'hui, il faut un niveau moyen, pas des super semaines ou bien plus élevé que ce qu'on offre actuellement. Et après, comment maintenir cette constance ? Ça, c'est avoir un gros débat avec Nicolas Escudé qui a pris la direction technique nationale pour enrayer justement cette inertie négative. Mais le côté tennis, l'école de tennis française n'est pas mauvaise, n'est pas en déclin. Donc, à un moment donné, il faut peut-être comprendre, est-ce qu'il y a des basiques, des fondamentaux tennistiques qu'on a un peu oubliés depuis 10 ans ? Sur les schémas de jeu, est-ce qu'on a été plus sur de la frappe, notamment chez les filles ? C'est un peu moi, mon sentiment à un moment donné, qu'il y a les pays de l'Est qui sont arrivés avec des grosses frappes de balles et peut-être qu'on a oublié un petit peu l'essence du tennis, c'est de jouer juste. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la formation qu'il faut légèrement modifier ? Après, non, quand je vois jouer Fiona Ferro…
Dans la tête un peu quand même aussi, non, Camille ? Là, c'est quand même, il y a des joueuses qui coulent complet, quoi. La dynamique, elle prend deux jeux. Enfin, c'est contre Alex.
C'est
pas la meilleure joueuse du monde sur terre battue, quand même.
Bien sûr, mais c'est des problèmes qui étaient aussi en amont. Mais ces joueurs et ces joueuses arrivaient à maintenir un niveau moyen malgré parfois des faiblesses mentales.
Là, on a quand même, tu as dit, il y a dans le top 100, à la race, il y a 8 Français actuellement chez les garçons. Il y en a 7 qui sont dans la deuxième partie du top 100, au-delà de la 50e place. Et en plus, dedans, il y avait des joueurs jeunes comme Rinderknecht, comme Bonzi, qui sont assez bien classés. Après, on arrive à la fin chez les garçons d'une génération très forte. Même si des gens vont dire, ah ben non, ils ne sont pas très forts, ils n'ont pas gagné le Grand Chelem. Ah, d'accord, ils n'ont pas gagné le Grand Chelem, mais Tsonga a fait finale, Richard a fait finale. Gaël a fait demi-finale, pardon. Gaël a fait demi-finale. Gilles Simon fait quart de finale. Et
ils étaient trois au Masters, non, Bertrand ?
Ils ont été au Masters.
Donc, c'était exceptionnel.
Ouais. Jules Fritton a fait finale du Masters, etc. Il a gagné Masters 1000. Bon, on a une très, très bonne génération qui arrive, c'est logique, au bout, à 35, 36 ans. Ça devient difficile. Il était évident qu'on n'aurait pas 4 joueurs de ce niveau dans la foulée. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il va en avoir, ne serait-ce que un, parce que ce n'est pas à chaque génération qu'on a des joueurs de ce niveau. Cette génération-là, elle est tombée dans la génération de Federer, Nadal et Djokovic. Donc, effectivement, pour gagner un grand chelem, il fallait se lever de bonne heure. Joe aurait peut-être pu en 2008, il était assez proche, cette finale en Australie contre Djokovic. Mais ils sont tombés sur une génération insensée. Bon. Et là, malheureusement, la suivante est moins forte. Donc, ça, déjà, c'est un premier constat. C'est assez logique, finalement, de voir ça. Maintenant, il y a aussi quelque chose dont il faudrait parler, c'est qu'on a un grand chelem en France sur terre battue et qu'on n'a jamais des bons, très bons joueurs sur terre battue. Il y a eu Gaël Monfils, Richard Gasquet est pas mal, Jules Fritonga était bien aussi, mais la nouvelle génération, ouais, c'est... on a l'impression que les joueurs ne sont pas du tout formés sur terre battue. Donc, les Anglais, à une époque, ils étaient quand même zéro, hein, avant Andy Murray. Ils avaient quand même quelques joueurs qui étaient wildcard à Wimbledon qui savaient jouer sur gazon. Ils savaient jouer que sur gazon, mais ils savaient jouer sur gazon. Bah, nous, les Français, ils ne savent pas vraiment jouer sur terre battue. C'est, un, je trouve, aussi un souci. Et puis,
parce que dans la formation, Bertrand, c'est, on est beaucoup sur de l'attaque, beaucoup sur de la qualité de frappe et moins sur le sens tactique et le physique dans la formation de base. Mais après, ça a fait des très grands champions sur les autres surfaces aussi.
Oui,
il faut dire qu'est-ce qu'on privilégie. Il y a très peu de tournois sur terre par rapport à toute l'année. Donc, tu vois, il faut trouver un entre-deux.
Bien sûr, il faut trouver un entre-deux. Mais bon, après, je ne demande pas à tout le monde d'être Nadal ou d'autres, ou Ferrero, ou Moya, qui étaient bons sur toutes les surfaces. Mais voilà, les Espagnols, ils ont cette, ou les Argentins, ils ont ce sens de la terre battue. Bah, la France, qui a le grand chelem sur terre battue, ne l'a pas. Et c'est un peu dommageable, je trouve.
Patrick Mouratoglou, dans Le Monde, il y a quelques jours, déclarait qu'on trouvait qu'on manquait d'ambition, que le tennis français manquait d'ambition. Il regrettait le manque de collaboration avec le privé. Il contre également ce nouveau discours, mis en avant, hein, d'ailleurs, par la nouvelle direction, qui met en avant le plaisir pour lui. Il faut être plus dur, on est dans un milieu ultra concurrentiel et il faut vraiment privilégier la performance. C'est pas ça aussi, peut-être, une des explications.
Ça fait un petit peu écho à ce que disait Gilles Simon récemment, au moment de la sortie de son livre, qui nous avait accordé un long entretien où il expliquait que effectivement, ce qui comptait désormais, c'était la performance. Il fallait arrêter de dire il a bien joué, félicitations, etc. On avait tendance parfois à être trop gentil, mais à l'inverse, il expliquait que le cadre français empêchait de privilégier la variété des profils. Et c'est ce que disait Camille très bien, c'est-à-dire que on a voulu former des Federer, des joueurs qui avaient la classe, des joueurs qui frappaient très bien la balle. Or, bah, Jim Simon, ce n'était pas Federer. Gaël Monfils, ce n'était pas Federer. Et qu'on avait voulu peut-être un petit peu trop mettre les joueurs français très rapidement dans des cases. Je pense que c'est ça le vrai problème, c'est aussi réussir à laisser aux joueurs leur spécificité et à s'appuyer dessus comme une force plutôt qu'à les voir systématiquement et à essayer de corriger ça plutôt que d'en faire une vraie force.
Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est la baisse petit à petit du niveau. Parce qu'on ne va pas gagner les grands chelems forcément. Je crois qu'il y a eu 6 pays chez les garçons qui ont gagné en grand chelem depuis 2003, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, avec notamment les Cadors qui ont tout repris. Mais en revanche, on s'est habitué quand même à en avoir un ou deux en deuxième semaine, voire plus. Et puis à chaque grand chelem, c'est un peu moins. Donc, c'est là en fait que ça devient quand même problématique. C'est que là, on ne dépasse plus le deuxième tour en grand chelem. Et là, effectivement, ça démontre un niveau qui est terrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus de joueurs au niveau tête de série. Il y a quand même 32 têtes de série. Et que chaque match, finalement, est difficile à gagner. Alors, pour des raisons diverses et variées. Gaël Monfils, par exemple, était un peu blessé, je crois, aujourd'hui. Mais aussi parce qu'il y a aussi un manque de compétition, de rythme, etc. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs. Chacun a finalement plus ou moins ses raisons de perdre. Il y en a dont ce n'est pas la surface. Hugo Humbert, ce n'est pas sa surface. Manarino, ce n'est pas sa surface. Voilà, mais il y a une baisse qualitative qu'on sent grand chelem après grand chelem. Et chez les filles, que dire ? Caroline Garcia a quand même été quoi, Camille ? Quatrième mondiale, non ?
Elle a été quatrième.
Quatrième mondiale. Bon, mais pourquoi aujourd'hui Caroline Garcia perd au deuxième tour de tous les grands chelems ou au troisième.
Ce manque de constance de niveau moyen à un très haut niveau. Tu vois qu'il y a une année incroyable, mais difficile de tenir dans le temps par rapport à d'autres joueuses.
Oui, mais c'est quand on sait qu'on a eu ce niveau, en plus dans un tennis féminin qui est quand même, en ce moment, il n'y a pas de patronne, quoi. C'est quand même très ouvert. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des Françaises capables d'aller au moins au troisième tour ou en huitième d'un grand chelem. Caroline Garcia a quand même le tennis pour être en deuxième semaine de grand chelem.
Caro, on a des joueuses et des joueurs qui ont un tennis quand on voit Lucas Pouille ce qu'il est capable de produire, mais chacun a individuellement des freins et c'est pas vraiment le même frein pour tout le monde, mais ils en ont. Pourquoi est-ce que ces freins arrivent? Comment les libérer? Est-ce qu'il faut faire comme Chiantec de voyager avec un préparateur mental
toute
l'année? Parce que comme elle gère mentalement et quand elle doit étouffer une adversaire qui est moins bonne, c'est 0-0. Donc, il y a un travail derrière. Donc, est-ce que, mais la fédération a mis en place depuis longtemps un suivi au niveau mental. Il faut arrêter de dire que les joueurs français ne travaillent pas mentalement. C'est complètement faux. Mmh. Ça fait 10 ans. Donc, on n'est pas du tout en retard là-dessus. Mais ça, finalement, ça ne permet pas d'avoir cette constance en termes de niveau de jeu.
Mais donc, soyons honnêtes,
il faut explorer autre chose. Je ne sais pas.
Il n'y a rien qui arrive derrière, ou pas grand-chose. Si Caso, peut-être.
Il
n'y a pas de joueurs, on se dit ça va être
oui, puis ce qui fait mal, c'est quand on compare par exemple avec les Italiens. Alors eux, ils ont une génération terrible qui arrive, ils ont Sinner, ils ont Musetti, ils ont Berrettini.
Ils ont eu un creux aussi, alors, Olivier.
Ils ont eu un creux, non, mais c'est vrai. Mais j'empêche, les gars, la comparaison est terrible aujourd'hui.
Oui, mais c'est quoi ça? Alors, est-ce que c'est le fruit d'un travail de la fédération italienne? Beaucoup disent que oui. Ou est-ce que c'est un peu de la réussite, un peu de chance d'avoir deux super joueurs dans la même génération? Ça, on peut se poser la question aussi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas Bertrand,
oui, chose, il y a un pays, on parlait tout à l'heure avec un confrère belge de l'RTBF, un pays qui est très intéressant là-dessus quand même, Camille, la République tchèque. Alors ok, chez les garçons, depuis la retraite de Berdych chez Stepanek, il n'y a plus grand-chose, mais chez les filles, c'est incroyable, il n'y a jamais eu de baisse. Depuis Navratilova, ce pays a toujours des joueuses au top niveau, ils ont toujours des joueuses qui sont en deuxième semaine de Grand Chelem.
Alors moi, j'ai une raison à vous communiquer, parce que je me suis retrouvée en République tchèque sur des moins de 14 ans il y a un ou deux ans, et on a discuté de ça avec des acteurs du tennis junior. Ils disaient en fait que les Tchèques, elles ne jouaient que sur bois, c'est-à-dire, ou parquet. C'est-à-dire que ça va tellement vite que derrière, elles se retrouvent sur Green Set à l'Open d'Australie. Non, mais elles ont l'impression que ça joue au ralenti. Non, mais vraiment. Et en fait, c'est aussi bête que ça. C'est qu'elles ont un œil, dès le plus jeune âge, où elles doivent tout faire plus vite. Donc, derrière, quand elles vont arriver, il y a la petite jeune à qui a Furta, je ne sais plus comment elle s'appelle, Bertrand, peut-être tu vas m'aider, un nom imprononçable. Elle a déjà une structure de jeu pour être top 100. Alors qu'elle n'avait que 14 ans, mais parce qu'elle se prépare assez tôt, elle a le coup d'œil, et apparemment, c'est lié au fait d'être formée sur surface extrêmement rapide, qui donne cette génération tchèque hallucinante.
Ouais, ouais. Camille, je voyais Petra Kvitova sur bois, non?
Oui, c'est pas mal.
Bon, quand même, il y avait aussi une question, moi j'avais envie de poser à Cyril et Bertrand plus spécifiquement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le tennis en rapport aux médias? Quand je parlais de manque d'ambition, il y a une forme quand même, certaines formes de, pas de complaisance, mais toujours on le sent bien, d'indulgence. Quand on compare avec d'autres sports, la manière dont ils sont traités, on peut être beaucoup, beaucoup plus sévère avec les représentants de l'équipe de France. On a toujours l'impression quand même que tennis, on trouve toujours des bonnes excuses et qu'on n'est peut-être pas aussi sévère qu'on devrait l'être. Peut-être ouais, que moi, je ne partageais pas cet avis.
Allez, Cyril, rentre leur dedans.
Non, mais je ne suis pas spécialement d'accord parce que, à l'inverse, quand on avait des super résultats, on a aussi beaucoup entendu les Français, ils ne gagnent pas de grand chelem, etc. Voilà. Peut-être que Joe Wilfried Tsonga, c'est le meilleur joueur français de l'ère Open. C'est un autre débat, mais en tout cas, en termes de résultats, le débat peut se poser. Et pourtant, on a entendu beaucoup, beaucoup de critiques à son égard. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit particulièrement complaisant. Et ce qui empêche aussi, c'est difficile, également, fils l'a très bien expliqué aujourd'hui en conférence de presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tire le bilan du tennis français. Or, le tennis français, le tennis est un sport individuel, c'est des cas spécifiques un par un. Et donc, Gaël Monfils, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, il a dit, vraiment, écoutez, je suis tout seul, je joue tout seul, j'ai pas spécialement de relation avec les autres, je gère, entre guillemets, mes affaires et chacun un petit peu ses problèmes. Et c'est vrai que quand on prend les cas individuellement, les excuses, entre guillemets, puisque c'est le mot qu'on a utilisé, elles sont recevables. Il y a une fin de cycle et de génération avec des joueurs qui continuent de jouer parce qu'ils sont animés par le plaisir du tennis. Il y a des pépins physiques, il y a des coups de blues mentaux. Il y a pour mon fils un choix de retenter quelque chose à 34 ans. Et puis, il y a des jeunes qui, on ne peut pas leur demander la lune non plus, ils grandissent à leur rythme. Et Hugo Humbert, il l'avait aussi expliqué avant Roland-Garros, il en a un peu marre qu'on lui parle toujours de cette génération avant lui. Donc, oui, on tire des bilans collectifs, mais c'est avant tout des cas individuels qui, chacun, ils ont des excuses qui s'entendent, en tout cas.
Hugo Humbert est un joueur, moi, que j'aime beaucoup, mais je vois que c'est vraiment pas un terrien. On a vu qu'il n'avait quasiment pas gagné de match sur terre battue. Par contre, c'est un battant, c'est un joueur qui a un bon mental, mais quand même, on voit aussi par rapport à son niveau de jeu que ça devrait plafonner autour de 20-25. Je vois difficilement aller beaucoup plus haut que ça, en tout cas pas dans un top 10. Donc, et c'est a priori notre meilleur joueur de la génération qui arrive. Donc voilà, il fallait pas à un moment donné dire « Ah là là, ils sont pas bons, ils gagnent pas de grand chelem parce que c'était pas possible, ou quasiment pas, avec cette génération. On a vu que très peu ont réussi à le faire. Et voilà, il faut pas non plus être trop complaisant maintenant et dire bah, c'est normal, pas être au troisième tour. Il y a un juste milieu, je pense, entre ces deux états de fait. J'espère quand même que dans les années à venir, là, on va voir effectivement le travail mis en place par la nouvelle fédération. Le problème, c'est que ça change aussi des équipes tous les 4 ans. On met un truc en place, puis ça peut changer avec l'équipe suivante. Alors que c'est quand même une politique de très longue haleine. Hein. Si on veut gagner un grand chelem, ça ne va pas être dans les 5 ans, a priori, en tout cas pas tout de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, au moins, j'aimerais bien, c'est vrai que si mentalement, il y a un travail effectué, que chacun puisse être un peu plus fort aussi dans ce domaine-là, pour gagner des matchs qui parfois vont être perdus, des matchs disputés, et qu'on puisse avoir au moins à chaque fois quelques-uns en deuxième semaine. Peut-être pas énormément, mais au moins quelques-uns qui puissent faire aller au-delà d'un deuxième tour, parce que là, c'est vrai que c'est historique et que ça fait mal.
Après, Bertrand, tu disais pour la fédération, ce n'est pas demain qu'on pourra former un vainqueur de Grand Chelem, mais je ne pense pas que ce soit une fédération qui forme un joueur comme ça. Les vainqueurs de Grand Chelem, ce sont des êtres uniques.
C'est vrai.
Qui sont nés. Donc, par contre, le rôle de la fédération…
Enfin, Roger Federer, il est quand même fédération en Suisse.
Oui, je veux dire, c'est qu'il aurait pu être fédération ou autre. En fait, ce sont des personnes à part. Après, le rôle d'une fédération, c'est de redonner ce vivier de joueurs top 100 chez les garçons et chez les filles, parce que là, pour le coup, c'est un vrai travail de fond, avec un accompagnement quand ils commencent le circuit sur les futurs, avec un accompagnement sur les juniors, avec une habitude de jouer des gros tours internationaux. Donc tout ça, c'est le rôle d'une fédération qui, normalement, ou d'un moment, les meilleurs juniors deviennent top 100, et après, ils vont faire leur route avec leur propre entraîneur.
Alors attends, Camille.
Je ne pense pas qu'ils peuvent former en fait un…
Alors, je ne dis pas former, mais attention, la détection. On prend l'exemple de Federer. Federer, donc, il est dans son club. Hein, je crois qu'il devait jouer à Bâle, j'imagine, quand il était gamin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à 14 ans, il part au centre national d'entraînement suisse. Il est donc détecté. Et comment, à partir de l'âge de 14 ans, il est pris en charge pour progresser jusqu'à 16 ans, 17 ans et devenir professionnel. Il y a des étapes qui se passent à ce moment-là. Ce n'est pas uniquement sur son propre talent.
Non, mais je veux dire, c'est que les fédérations proposent des structures les meilleures possibles, mais après, celui qui va gagner un grand chelem, il a ce petit plus que n'importe quel très bon joueur encadré avec les meilleures structures possibles fédérales ne pourra jamais avoir. En fait, je pense qu'après, ce que disait Cyril, c'est que chacun a son identité et sa carrière. Et ça, derrière, une fédération ne peut pas le gérer à terme.
Ce qui est pour rebondir sur ça, si on reprend encore l'interview de Gilles Timon, qui était vraiment très riche, y a peut-être un problème avec les médias français, c'est quand on a un joueur qui a de l'ego et qui affirme haut et fort ce dont il a envie. C'est arrivé à Joe Wilfried Tsonga, qui a parfois eu des déclarations, je ne sais pas si c'est maladroit, mais où il disait bah voilà, j'ai envie de devenir numéro un mondial. À l'époque où Wawrinka avait gagné, il avait dit j'aurais pu être à sa place, entre guillemets. Et effectivement, beaucoup du monde lui était tombé dessus. Or, et Gilles Simon expliquait ça très bien, aux États-Unis, si on a un mec qui dit moi, j'ai envie de devenir numéro un mondial, il y a des gens qui vont le suivre, il y a des gens qui vont avoir envie de le sponsoriser, etc. En France, on va lui reprocher d'avoir un ego et de parler avant de gagner. Sauf que c'est, comme il expliquait encore très bien, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on attend d'eux qu'ils gagnent un grand chelem, mais pour gagner un grand chelem, il faut aussi qu'ils aient cette conviction-là. Et peut-être que l'environnement médiatique…
Le petit Alcaraz qui a 18 ans, là, qui est qualifié pour le troisième tour, lui, il dit il veut gagner Roland, il veut être numéro un mondial.
Hein. Non, mais surtout, ça pourrait être mal perçu en France.
L'exemple que tu donnes, Cyril, il est bon, l'exemple de Tsonga, mais attention. D'un côté, il y avait un Wawrinka qui était très humble, qui grandissait dans l'ombre de Federer, qui a longtemps été le petit garçon par rapport à Federer, et qui, un jour, il s'est affirmé. Il n'a pas dit « je vais être numéro un ou je vais gagner le grand chelem ». Par contre, il les a gagnés. Et il les a gagnés, il faut voir comment. Donc lui, il a travaillé suffisamment son tennis pour les gagner. Est-ce que Joe Wilfried Tsonga, en affirmant ça, a fait ce qu'il fallait derrière? Moi, je pense que non. Olivier, ça, il faut être sévère. Je pense que non. Quand on a le niveau de revers qu'il a eu et le niveau de relance qu'on a eu, on ne peut pas gagner un grand chelem. Donc, il y a le travail à faire qui doit aller avec ce qu'on affirme. Et a priori, ça n'a pas été suffisamment le cas. C'est parce qu'il n'a pas progressé suffisamment dans les domaines où il était moins bon pour pouvoir gagner un grand chelem. Wawrinka l'a fait.
C'était plus sur la question médiatique de quand un joueur
ose s'affirmer. Oui, mais tu oses t'affirmer, mais fais ce qu'il faut avec. Sinon, comme Mikael Laudra avait dit une fois, je voudrais gagner un grand chelem en simple. Non, il faut poser des objectifs qui sont réels. Sauf que c'est qu'ils sont réalistes, je veux dire.
Si on leur tombe dessus à chaque fois qu'ils affirment des ambitions, même s'ils doivent travailler pour y atteindre, fatalement, ils vont pas vouloir se mettre sur le devant de la scène, et donc ça va pas les pousser à s'affirmer et à se dire bon bah en fait c'est moi le meilleur, il faut que j'y aille.
Et moi je pense que le problème, Cyril, c'est que ça c'est un, je pense que c'est vraiment notre culture française.
Tout à fait.
Qu'on retrouve pour les gens qui veulent être brillants dans leur secteur, et c'est souvent mal vu. Donc là, si on doit modifier ça pour avoir des joueurs dans le top 100, alors on va attendre quelques années. Hein. Je suis pessimiste, mais donc faut qu'on trouve autre chose.
Je suis désolé, mais j'en entends quand même souvent dans le milieu du tennis, dans les gens qui sont un peu insiders, que les joueurs français, les meilleurs, n'étaient pas forcément les plus gros travailleurs du circuit. Et mine de rien, ça compte. Wawrinka, je crois, quand il a gagné ses grands chelems, c'était un bourreau de travail. C'est un gars qui, pour progresser, arriver là où il en est arrivé, qui a travaillé quand même mutant. Et peut-être que, et je ne critique pas les joueurs qui n'ont pas suffisamment travaillé, parce que chacun fait comme il veut, chacun n'a pas forcément la capacité de travailler comme un mutant, comme un Wawrinka, ou un Djokovic, ou un Nadal. Mais ça fait aussi, je pense, partie du problème.
Allez, on va en terminer là pour ce débat. Ça pourrait durer évidemment des heures. Tiens, je vais terminer avec une référence littéraire. Je viens de terminer le Comte de Monte Cristo. Voilà. Ça se termine sur attendre et espérer. Je trouve que c'est un parfait résumé pour le tennis français. Allez, on passe à la.
Je suis d'accord, Olivier.
Pour la première fois, la stat du jour. Allez, la stat du jour du compte Jeux 7 et Mat, partenaire d'Eurosport durant la quinzaine. Ça concerne les filles, on l'a vu avec Ashleigh Barty qui a abandonné, Osaka qui s'est retirée. Les deux premières têtes de série ne seront donc pas au troisième tour. C'est rarissime. On apprend que c'est la troisième fois seulement que ça arrive. C'est arrivé à Roland-Garros en 2014 avec Serena Williams et Nali. Et c'est arrivé à l'US Open en 2018 avec Alep et Wozniacki. C'était jamais arrivé entre 1968 et 2013, et c'est arrivé trois fois en 7 ans. C'est quand même la preuve que le tennis féminin se cherche depuis pas mal d'années maintenant, presque 10 ans. Hein.
Oui, Olivier, ça aussi, ce n'est pas une surprise, même si la stat confirme. Il n'y a aujourd'hui pas une joueuse qui se détache clairement. On avait parlé d'Osaka, on a eu ce débat, mais pour moi, justement, c'est la joueuse qui pouvait à un moment se détacher, parce que je trouve que quand elle joue son tennis pleinement, elle dépasse tout le monde, comme justement Serena l'a fait par le passé, ou d'autres joueuses. Elle a encore des choses à régler, mais attendre aussi ce moment-là, on en a besoin pour le tennis féminin, parce que ça commence à être compliqué de ne jamais avoir quelqu'un à attendre pour aller au bout. Trop de changements, ça fait pas du bien. Après, pourquoi il y a autant de... Il y a un vivier énorme pour le coup pour être star chez les filles, mais il n'y en a pas une qui se détache. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de fragilité dans cette nouvelle génération de joueuses top 10, en fait, que par le passé, où à l'époque, on voyait Justine Henin, Inge Lashers ou les Williams, quand il y avait des moments un petit peu chauds, c'était là elles jouaient leur meilleur tennis. Et là, quand je vois une Garbiñe Muguruza qui a gagné 2 grands chelems, eh bien, je la sens fragile. Et ça me choque. Je me dis, mais c'est, je n'ai pas connu ça dans la génération d'avant. On était éblouis par leur gestion mentale des moments importants. On savait qu'elles allaient être à se sublimer. Et je trouve que toute cette génération-là, elle joue extrêmement bien au tennis physiquement. Vraiment des avions. Elles ont énormément travaillé. Donc, il n'y a pas un problème tennistique ou physique. Mais je trouve qu'il n'y en a pas une qui se détache mentalement. Et ce qui fait qu'elles sont toutes dans le même panier aujourd'hui. Donc, ça gagne une fois, une autre flanche, et puis ça tourne. Voilà. Donc, qui va sortir du lot ? Moi, je dirais Osaka quand elle se sentira justement apte à se détacher mentalement de ces joueuses-là.
Là, la stat, elle est un petit peu dure parce que c'est lié à deux faits qui n'ont pas grand-chose à voir avec le tennis. Barty s'est blessée, donc je pense qu'elle avait quand même les moyens d'aller loin. Et Osaka, on sait tous ce qui s'est passé. Donc, voilà, ce qui concerne les têtes de série 1 et 2, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est symptomatique, effectivement, d'un circuit féminin un peu à la dérive, j'ai envie de dire. Semaine après semaine, on a un peu de mal à voir ce qui se passe. Alors après, hors Grand Chelem, il y a des joueuses qui sont solides quand même, comme Sabalenka, par exemple, Barty aussi, dans les tournois où elle s'engage. Il y a aussi Simona Halep là, qui est blessée, donc ça fait encore une joueuse en moins parmi les meilleures. Mais oui, il n'y a pas de hiérarchie, c'est évident. Et Et du coup, pour le public, c'est difficile. C'est difficile de dire « je vais me passionner pour le tableau féminin » parce que quand on voit Kvitova qui se blesse en plus à la conférence de presse, qui laisse une grosse place dans son tableau, Zaka aussi, ça fait des parties de tableau avec des joueuses sans tête de série. Bon, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai regardé aujourd'hui un petit bout de match, et vous allez vous moquez pas, entre Krejcikova et Alexandrova. C'est Alexandrova, c'est une joueuse qui joue pas mal. On dit « voilà, c'est une joueuse qui pourrait progresser, etc. » Elle a pris 2 et 3.
Elle joue bien en indoor, mais...
Peut-être une joueuse qui est une bonne joueuse de double, d'abord, avant tout, mais qui a bien joué aussi en simple cette année, c'est vrai. Mais ouais, elle a du mal à voir des joueuses qui vraiment, je sais pas, se détachent ou arrivent en disant « on est sûr de l'avoir en quart, on est sûr de l'avoir en demi ». C'est un moment qui dure un peu longtemps. Depuis que Serena a baissé le pied, ça fait un peu longtemps. Il n'y a pas de patronne et il n'y en a aucune qui a l'air d'avoir vraiment envie d'assumer ce rôle. On en avait, comme l'a dit Camille, on en avait peut-être une, mais elle se met en retrait parce qu'elle a des problèmes, des soucis sur le plan mental. Donc là, malheureusement, bah, il va falloir compter peut-être sur quelqu'un d'autre.
Allez, on passe à la journée de ce vendredi avec le programme de vendredi et le match du jour. Alors, le match du jour qui nous intéresse ce vendredi, il aura lieu en session de nuit et opposera Stefanos Tsitsipas à John Isner. Stefanos Tsitsipas, le 5e joueur mondial, toujours aucun set perdu. Il est plutôt impressionnant depuis le début de ce tournoi. Comment vous l'imaginez, tiens, ce match face à John Isner ? C'est pas simple hein, quand même, face à ce gros serveur américain qui est plutôt jeune, mais... Et encore compétitif, hein, on l'a vu hein, sur terre battue.
Quelle sera la météo, Olivier ? Tu lui donnes la météo parce que sans météo,
c'est je crois qu'ils annoncent de la pluie.
Ah, donc en indoor.
Ah, je sais pas, je connais pas à l'heure près, je peux pas vous dire, s'il va pleuvoir ou pas, mais ça pourrait changer quelque chose.
C'est programmé sur le central ?
Ah oui.
Ouais, c'est sur la session.
Est-ce que ça peut changer quelque chose quand même en indoor ?
Ah bah oui.
Enfin, non, mais ce ne sera pas de l'indoor. Enfin, je veux dire, le toit, il est fermé, mais il y a quand même des aérations. Enfin, c'est pas Bercy.
Ah bah non, mais c'est quand même, ça change beaucoup de choses. Pour Isner, quand même, avec son service, s'il n'y a pas de vent, qu'on est en indoor, c'est quand même
ça plus dangereux. Ça va quand même plus vite.
Bah, si on joue de nuit, à la base, à nuit en extérieur, c'est plutôt avantageux pour Tsitsipas parce qu'effectivement, les conditions sont plus lentes le soir, la nuit. En plus, il fera peut-être un peu humide si la pluie arrive. Si on avait joué en plein cagnard, voire, ou en tout cas comme on a eu les conditions sur les 4 premiers jours de tournoi, là, Isner aurait été quand même extrêmement dangereux, je pense, notamment avec son kick sur seconde balle, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui reste dangereux. Un Opelka, un Isner, le jour où ils vont claquer 75% de première, c'est difficile. Si passe pour l'instant, son point fort, ce n'est pas forcément la relance, même s'il progresse. Donc, si Isner sert très bien, il y a danger. Mais j'ai envie de dire, je pense que vous allez dire pareil, Cyril et Camille, mais il y a toujours danger face à ce genre de joueur.
Ouais. Ouais, c'est imprévisible. Ouais.
Ouais, moi, je suis plutôt optimiste quand même pour Tsitsipas parce que Camille parle beaucoup de niveau moyen et cette saison, il a vraiment franchi un cap pour moi. Sa saison sur Terre, elle est quand même bluffante. Et pour l'avoir vu un petit peu jouer, ça sort très bien de la raquette, c'est plein d'intensité, physiquement il est là, donc oui, Isner, ça va être embêtant pour retourner, mais dans tous les autres compartiments du jeu, il n'y aura pas photo à mes yeux et Tsitsipas part largement favori.
Rapidement sur Tsitsipas, vous le voyez plus favori dans cette partie de tableau qu'un Zverev pour aller en...
Oui.
Moi, oui, je trouve qu'il a une sérénité en ce moment et il est en train de monter en puissance. Ses schémas de jeu sont très clairs. Il dégage une sérénité. Il vient de remporter le tournoi de Lyon. Vincent, qui avait aucun doute, peu importe son adversaire. Donc, il est en train de monter en puissance parmi les tout meilleurs. Et surtout, il est capable de s'adapter à n'importe quel jeu. On ne se dit pas, là, ça va être très compliqué. Là, il peut avoir un match vraiment galère face à Isner, mais qui est un peu indépendant de sa volonté. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, il va trouver les ressources pour aller faire le passing dans les pieds au bon moment, parce qu'il est dans une phase où il progresse énormément.
Il est meilleur que Zverev sur terre battue, parce que c'est sa surface de base. Justement, lui, il a grandi sur cette surface. Il aime à le répéter, mais c'est vrai. Il adore jouer sur terre battue. Comme l'a dit Camille, il connaît très bien les schémas sur cette surface. Il aime le côté tactique de la terre battue. Donc, pour moi, il est bien meilleur que Zverev sur cette surface. L'écueil qu'il peut y avoir, c'est plus un peu ce qu'on a connu à Miami, par exemple, avec Medvedev et Tsitsipas, c'est d'être le favori de sa partie de tableau, justement. Et c'est pas facile à gérer. S'il était dans la partie d'un Djokovic ou d'un Nadal, bon, bah, on se dirait qu'il va peut-être aller jusqu'en demi, mais il n'est pas favori pour aller en finale. Là, il est quand même. C'est vrai qu'il y a Zverev. Bon, Medvedev a un cran en dessous parce qu'il n'est pas très bon, justement, lui. Il le dit lui-même sur cette surface. Mais est-ce qu'il va gérer, justement, ce côté favori de sa partie de tableau? C'est le moment, justement, peut-être pour lui aussi, de s'affirmer aussi sur ce plan mental et de dire, allez, les gars, je suis le favori de cette partie de tableau, ben, je vais en finale. Alors, ça va être très intéressant de voir ça, de voir justement s'il parvient à bien gérer ce statut de favori d'une partie de tableau.
Allez, c'est le moment le plus important hein, de ce podcast. Vous l'attendez tous. Les pronos! Hein, les pronos de Bertrand, de Cyril, de Camille sur ce match. Alors, Laurent Vergne, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, a transmis avec beaucoup de sérieux son pronostic. Lui, pour lui, c'est très clair. Tsitsi passe en 3-7. Et vous?
Tsitsi en 4 pour moi.
Idem, Tsitsi passe en 4 pour moi.
Moi, je vais le dire en 3-7.
Ah ouais, tout le monde voit Tsitsi passe gagnant. J'ai pas
Il
n'y
a
fait
pas
les,
de petit 5 et de 5-7, non? Personne se lance.
Qui c'est qui est en tête dans les...
Bah, c'était moi, je crois, mais là, hier, Camille et Laurent scorent aujourd'hui, parce qu'ils ont tous les deux dit Federer en 4. Moi, j'avais dit Federer en 3, donc je pense qu'il y avait un beau resserrement là, en tête de classement.
Magnifique,
là.
Quelle homogénéité parmi tous nos experts, c'est fantastique. Voilà qui met un terme à ce beau numéro, j'ai trouvé. C'était passionnant de vous entendre débattre sur les Français, sur Federer. Évidemment, vous n'oubliez pas, Terre débattue, c'est un podcast à retrouver tous les jours pendant cette quinzaine de Roland-Garros sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite évidemment à noter ce podcast hein, sur Apple Podcast. Vous laissez 5 étoiles, des commentaires dithyrambiques sur Bertrand, sur Cyril, sur Camille et sur Laurent. Évidemment, merci à tous. Ça a été un plaisir. Vous avez passé un bon moment.
On est ravis. On recommence.
Rendez-vous très vite pour un prochain numéro, évidemment, de Terre débattue. Salut à tous.
Salut, merci Olivier.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.